Dernier jour de la grande table d'été, sous le soleil du mois d'août qui pointe la rentrée à 13h30, le réalisateur américain Ira Sachs viendra nous parler de Frankie, son dernier film en salle à partir de mercredi. Mais avant cela, nous allons évoquer la folie. Laquelle ? Celle qui s'immisce en littérature, lieu inatteignable, asile pour le lecteur. C'est d'ailleurs un asile, la salpêtrière, que le premier roman de Victoria Mas, Le bal des folles, nous propose d'explorer. Au 19e siècle, cette institution parisienne réservée aux femmes dites hystériques est le lieu où l'on enferme pêle-mêle toutes celles sur lesquelles on souhaite exercer un contrôle social. À sa tête, une sommité, le professeur Charcot, maître de l'hypnose. La littérature propose de réouvrir les portes de la salpêtrière, Victoria Mas, et notre invitée, ainsi que la psychanalyste et docteur en littérature, Anouk Kapp. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besry.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Victoria Mas, quelle idée de situer votre premier roman, intitulé Le bal des folles, à la salpêtrière, pas n'importe quand, dans l'année 1885.
Tout à fait. 1885, donc à l'époque des travaux de Charcot sur l'hystérie. On a tous entendu parler de Charcot et notamment de fameuses patientes hystériques qu'il avait beaucoup mises en avant, notamment Augustine et Blanche Whitman. Néanmoins, le roman ne parle pas de ça, il parle de quelque chose qui s'est un peu fait oublier au cours des décennies suivantes, et c'est le bal des folles. C'est-à-dire qu'à l'époque, sous Charcot, avait lieu chaque année, à l'occasion de la mi-carême, un bal, qu'on appelait vraiment le bal des folles. Et c'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient internées à la salpêtrière pour hystérie, épilepsie, schizophrénie, se voyaient offrir des costumes de paysannes, de zouaves, de sorcières, et avaient eu un grand bal dans la salle de l'hospice, et le tout Paris venait voir ces femmes, donc une fois par an, comme une sorte de zoo humain, de divertissement un peu incongru et un peu gênant.
Avec cette ambiguïté qui fait que ce bal des folles est présenté aux patientes de l'asile comme étant un moment de grande fête pour elles.
Tout à fait, c'est un moyen pour elles d'aller à la rencontre d'un Paris dont elles sont isolées puisqu'elles ne sortent jamais des murs de la salpêtrière. Donc c'est une sorte de retour à la normalité pour ces femmes, à la fois de se déguiser, d'avoir de la musique, de boire, alors évidemment pas d'alcool, mais d'être surtout vues, d'avoir des hommes qui les regardent, d'avoir des gens qui, elles pensent, les admirent. Or, de l'autre côté, du coup, ces Parisiens qui viennent observer ces folles sont motivés par une curiosité évidemment très mal placée.
Alors, curiosité, Anouk Kapp, que l'on connaît concernant la folie qui sert de régulateur social. On sait que les fous d'une époque ne sont pas nécessairement seuls de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce 19e siècle et de cette institution parisienne de la salpêtrière au 19e siècle, à l'époque de Charcot?
Alors, c'est vrai que Charcot a amené une attention nouvelle sur la folie, notamment par ses présentations de malades. Présentations publiques dans lesquelles venaient des journalistes, des collègues, mais aussi le tout Paris mondain qui assez rapidement s'est pressé à ces présentations-là. Vous avez parlé de contrôle social, de femmes qu'on enferme, notamment pour les contrôler. C'est quand même le thème du roman. Alors moi, je modulerai un peu en amenant peut-être l'idée que la folie elle-même, si on doit parler de cette chose, qui est la folie en la démédicalisant, serait produite par le contrôle social. C'est-à-dire non pas qu'elle n'existerait pas, mais qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de phénomènes délirants produits chez des êtres humains qui seraient aussi produits par du contrôle social.
Alors ça, c'est aussi dans le livre, hein, c'est la question des marges. On remarque que finalement, l'un des personnages, Eugénie, qui elle est issue d'un milieu très bourgeois, fait figure d'exception dans ce milieu de la salpêtrière. On le retrouve plutôt des femmes d'un milieu populaire qui sont victimes d'une société qui souvent se retrouve plus facilement aussi à la salpêtrière. Anouk Kapp, il y a un jeu d'aller-retour.
Il y a un jeu d'aller-retour et il y a aussi deux formes d'internement qui sont pas tout à fait les mêmes et qui sont par ailleurs dénoncées toutes les deux dès le milieu du 19e siècle, dès en fait la mise en place de l'asile. C'est-à-dire que dès le départ sont dénoncés les internements arbitraires. Un internement arbitraire, ça dit très bien ce que les mots expriment, c'est-à-dire qu'il s'agit de gens, mais c'est valable aussi dans les hôpitaux pour hommes, de gens qui seraient hospitalisés pour une folie qui n'existerait pas, qui serait en fait hospitalisé sous prétexte de folie pour des raisons politiques, par exemple, ou de contrôle social ou familial, etc. Et c'est effectivement... Alors, le cas de votre héroïne est un petit peu ambigu parce que c'est un peu les deux. C'est-à-dire, à la fois, on veut un petit peu contrôler quelque chose de son existence, et en même temps, on a l'impression que les parents qui l'hospitalisent pensent tout de même qu'elle est folle. Il y a cette ambivalence, cette ambiguïté-là. Et puis, il y a aussi les hospitalisations réellement pour des problèmes de délire, pour des problèmes de comportement qu'on peut regrouper sous le mot de folie. Et ça aussi, c'est contesté. C'est-à-dire qu'il y a, dès ce moment-là, des voix qui s'élèvent pour se demander s'il n'y aurait pas un autre traitement possible à la folie. Et traitement, ça veut dire aussi une manière de traiter les gens, pas forcément de les guérir, pas forcément de les soigner, une manière de s'en occuper.
Alors, il y a cette double idée, Victoria Mas, de l'asile, comme à la fois un havre de protection. D'ailleurs, c'est le cas pour certaines, tant la violence est forte à leur égard. Violence des hommes notamment, et l'idée d'un lieu aussi dans lequel on enferme.
Tout à fait, c'est le paradoxe en tout cas de cet hôpital, c'est que certaines femmes s'y sentent en sécurité, elles y ont trouvé un confort, et pour rien au monde elles ne souhaiteraient en sortir, puisque le monde extérieur au contraire est d'une violence sans nom et synonyme de tous les traumatismes qu'elles ont pu vivre au sein de leur enfance.
Anouk Cap.
Oui, c'est aussi une époque, faut pas oublier, à laquelle la prostitution à Paris a pris une place immense, un très grand nombre de femmes, et notamment de femmes qui travaillent ou qui travaillent peu, ou en tout cas qui n'ont pas les moyens de vivre en étant mariées ou parce qu'elles sont nobles, vivent de la prostitution. Et dans certains cas, il était plus confortable d'être hospitalisée à la Salpêtrière, où on était nourrie, blanchie, logée et pas maltraitée, oui. Plutôt que se retrouver à faire le trottoir. Donc il y a aussi cette dimension-là, effectivement, d'asile qui est extrêmement compliquée à appréhender.
Alors dans des circonstances où quand même l'avenir est relativement sombre, l'alternative est relativement sombre. Victoria Mas, d'où vient ce point de départ? Alors certes, le bal des folles, comment est-ce que vous êtes tombée sur ce bal des folles?
De façon totalement anecdotique, en me rendant à la Salpêtrière il y a 2 ans, et j'ai été... vraiment très fortement interpellée par les lieux. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les pierres, dans les bâtiments qui était lourd, qui était chargé. Je me suis dit, tiens, il a dû s'en passer des choses ici. Et donc, je me suis intéressée à l'histoire de la Salpêtrière, de sa construction jusqu'à la fin du 19e avec Charcot et ses fameux travaux sur l'hystérie. Ce bal des folles m'a vraiment parlé. Je me suis sentie... concernée, j'ai été choquée aussi, puis j'ai voulu vraiment approfondir, je voulais pas rester que dans l'émotion, je voulais comprendre qui étaient ces femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient là, pourquoi ce bal, et essayer de... Parce qu'au final, on trouve les premiers écrits parlant de ce bal autour de 1882 jusqu'au début du XXe siècle. Donc vraiment pendant une vingtaine d'années, c'était vraiment l'événement annuel parisien dont tout le monde parlait. Et puis après, il s'est fait oublier au cours des décennies suivantes, jusqu'à quasiment ne plus exister aujourd'hui. Parce que, après, je ne sais pas, mais quand j'en parlais autour de moi, personne ne connaissait ce bal des folles qui avait lieu à la Salpêtrière. Or, tout le monde connaît Charcot. Donc je voulais essayer de parler de ce bal-là et de ce que ça représentait et des femmes qui étaient directement impliquées.
Alors, il faut peut-être redire quelques mots à Anouk Cap de Charcot et de ses travaux. Évidemment, ce sont ces grandes séances d'hypnose en public qui ont été retenues, mais il faut dire qu'il va attirer tout un monde scientifique autour de lui, qui vont venir assister aussi à ces séances-là.
Alors Charcot, au départ, c'est un neurologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche l'origine des troubles qu'on n'appelle pas encore psychiatriques, l'origine des troubles dans quelque chose qui est de l'ordre du corporel, qui serait dans le cerveau. Et c'est un peu paradoxal de le voir à ce point-là développer l'hypnose. Mais c'est ce qu'il fait. Il cherche par l'hypnose à déclencher des crises qu'il étudierait ensuite de manière à déployer un savoir qui serait neurologique. Et effectivement, à partir du moment où il invente ses présentations de malades, le tout Paris s'y déplace. C'est-à-dire pas seulement le monde scientifique, pas seulement les médecins, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les journalistes, les mondains, les mondaines aussi. Donc ça projette un éclairage complètement nouveau sur ce phénomène qu'il appelle hystérie. Il faut savoir aussi que dès l'époque, ces travaux sont quand même contestés. Alors par des voix plutôt dissidentes, notamment par l'école de Nancy, qui est une autre école qui travaille sur l'hystérie autour de la ville de Nancy, où là, les chercheurs affirment à peu près au même moment, un petit peu plus tard, mais enfin, on est sur un décalage de quelques années, pas plus, que l'hystérie à la Charcot est un phénomène de culture, c'est-à-dire qu'elle est produite par l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose ne vient pas...
Que l'hypnose déclenche les symptômes.
Tout à fait, que l'hypnose déclenche l'hystérie. Non pas qu'elle la révèle comme quelque chose qui serait déjà inscrit dans le corps, déjà inscrit dans les neurones, déjà inscrit dans une maladie qu'on pourrait observer, mesurer, et qui serait de l'ordre de la déviation corporelle, mais qu'elle est provoquée par l'hypnose. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à une époque où, et c'est le deuxième thème du livre, le monde culturel est aussi extrêmement intéressé par le magnétisme.
Alors c'est effectivement d'ailleurs ce rapport avec ce qu'on a appelé l'occultisme et ce rapport à la spiritualité qui est aussi un des motifs de votre roman Victoria Mas. Alors c'est pas nouveau que la folie et ses lieux clos en particulier soient des motifs littéraires, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous emparer en particulier de cette période-là et de cette folie féminine, en tout cas jugée comme féminine?
Vous parlez au niveau du spiritisme?
Non, comme motif littéraire, pourquoi vous avez choisi comme objet d'écriture cette folie plutôt féminine, soignée d'ailleurs par des hommes?
Il y avait quelque chose dans le fait que j'avais vraiment une image très visuelle de cet hôpital. La Salpêtrière a également toute une iconographie qu'on peut trouver même en faisant de simples recherches sur Internet. Il y avait quelque chose dans le fait d'imaginer toutes ces femmes présentes dans cet hôpital, de voir ces visages anonymes qui étaient... je me suis posé la question, je me disais, bon, je pense que certaines, en effet, avaient besoin d'être prises en charge, mais après, c'est la question de la folie est-elle aussi une construction sociale et morale? Est-ce que ces troubles neurologiques ne sont-ils pas le fruit aussi d'une oppression sociale, d'un enfermement abusif? On sait aussi qu'il y avait beaucoup de suggestions, le facteur de la suggestion est important, en fait, chez les patients, parce que beaucoup voulaient plaire à Chargot, qui était quelqu'un de très charismatique, et certaines patientes, en effet, pour lui plaire, imitaient des symptômes et se rendaient presque elles-mêmes en fait malades et déclenchaient elles-mêmes des crises d'hystérie. Pour moi, ce thème-là, je voulais l'approfondir et je voulais surtout le faire partager parce que, encore une fois, 1885, pour moi, c'est hier. Et ça, c'est dans un Paris qu'on connaît aujourd'hui. Le décor est déjà planté, donc... Parler du passé, essayer de le comprendre, c'était une manière de peut-être mieux appréhender le présent.
Alors c'est vrai que Charcot et en particulier ses patientes ont fait l'objet de films aussi. Hein. Il y a le célèbre Augustine de Alice Vinocourt. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Elle a des attaques d'hystérie depuis plusieurs mois et présente tous les symptômes de ce qu'on a décrit comme l'hystérie ovarienne. Vous remarquerez en premier lieu la paralysie de l'œil droit. C'est un beau spécimen de ce qu'on appelle le clin d'œil hystérique. C'est une paralysie permanente. Bien que les symptômes soient présents depuis plusieurs jours, nous n'avons pu trouver la moindre lésion organique. Comme tout hystérique, cette malade défie les lois de l'anatomie. Nous allons mettre Augustine sous hypnose. Et par l'hypnose, nous allons reproduire cette crise telle que nous l'avons vue à l'état naturel, pour mieux l'identifier, mieux l'observer et mieux en classifier les symptômes. Monsieur Verdon, ici présent, fera des photographies de la scène. Monsieur Bonneville, vous pouvez hypnotiser Augustine quand vous voulez.
Augustine ? Regarde le miroir. Regarde la lumière dans le miroir. Suis-la.
On entend Victor Yamès, une séance d'hypnose qui démarre. Et on voit bien que les créatifs, les artistes sont immédiatement intéressés par cet univers, puisque les aliénés sont pris en photo à plusieurs reprises, y compris dans votre roman.
Tout à fait. Il y a vraiment une mise en scène de toutes ces femmes. D'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui on parle d'Augustine comme l'une des patientes stars de Charcot veut dire beaucoup de choses. Une patiente n'a pas à être comédienne, mais il y avait quelque chose de l'ordre vraiment de la représentation de ces femmes et de leur folie, notamment par exemple dans les cours publics de Charcot qui avaient lieu tous les vendredis, où en fait on faisait monter ces femmes sur une scène, sur une estrade, comme si c'était des comédiennes. Ce bal des folles s'apparente à quelque chose aussi de très, très grandiose, lors du grand spectacle, où c'est des costumes pittoresques. Et pareil pour les photos aussi qu'a prise Albert Londe à la demande de Charcot. Il y avait vraiment un désir de je le vois ça comme de la communication aussi, divertir pour mieux attirer l'intérêt du public, des mondains, des intellectuels.
Outre la question du sujet, qu'est-ce qui vous a fait dire que ce sujet-là pouvait être aussi un sujet littéraire? Comment est-ce que vous avez pensé transformer par l'écriture? Vous avez repris un phénomène de journal, de datation. Il y a quelque chose d'un peu chirurgical dans le découpage du livre.
Oui, je voulais éviter de tomber dans quelque chose de trop documenté. Je voulais pas écrire un essai, je voulais vraiment écrire une histoire. Et pour moi, cette histoire ne pouvait pas partir du point de vue d'une patiente, parce que à partir du moment où ce thème est quand même très très lourd, très très chargé, je me suis dit je veux pas tomber non plus dans quelque chose de trop pathétique, de trop larmoyant. Donc je voulais avoir vraiment une construction où ce serait un personnage, l'intendante du service des hystériques, qui fait le lien entre les médecins qu'elle admire et ces femmes qui, pour elle ne les voit plus comme des femmes, elle les voit vraiment comme des aliénées. Et comment on va faire en sorte que ce personnage-là, qui a des convictions très ancrées, change son regard sur ses internés, qu'elle les regarde, qu'elle voit derrière.
Anouk Cap, sur cette question justement de ce qu'on appelle les aliénées, ce que l'on appelle aussi les hystériques. Qu'est-ce que ça recouvre, et ces hystériques mises en avant, comme la figure d'Augustine qu'on entendait dans le film?
C'est difficile de dire qu'est-ce que ça recoupe, le mot hystérique.
À l'époque,
parce
il y a une définition.
À l'époque, ça recouvre ces femmes qui, c'est une définition qui se mord la queue, qui font des crises d'hystérie. Une hystérique, c'est quelqu'un qui fait une crise d'hystérie. Une crise d'hystérie, c'est ce qui a été défini par Charcot comme une crise d'hystérie. C'est très compliqué de rediagnostiquer des choses qui sont prises dans un contexte historique. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, des hystéries à la Charcot, on n'en rencontre plus ou très très peu.
Donc il y a des pathologies d'époque?
Il y a des pathologies d'époque. Ce qu'on peut dire, c'est que l'hystérie, à la fin du 19e siècle, se manifeste majoritairement dans des symptômes et des manifestations à la Charcot, qu'on sait que c'est culturellement induit, notamment par hypnose, et c'est là où on est face à quelque chose de très problématique, qui est qu'on ne peut pas non plus dire que ces femmes sont des simulatrices. Elles ne font pas délibérément, elles ne feignent pas délibérément des crises d'hystérie pour telle ou telle raison. Mais elles sont prises dans un réseau relationnel qu'en psychanalyse on appellerait transfert, qui conduit à
des communications
corporelles et verbales très standardisées, en fait.
Alors c'est aussi le lieu de l'exclusion au sens propre, éviction de la société de l'extérieur, qui est représentée par cet enfermement-là, dont on perçoit qu'il peut être infini.
Alors c'est l'exclusion. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on qualifie d'exclusion. C'est l'exclusion du monde social, mais comme vous l'avez souligné, c'est pas du tout l'exclusion d'un regard. Les hystériques, elles sont éminemment regardées, et quant au fait, par exemple, qu'elles ont été prises en photo, c'est dès 1875 qu'est instauré à la Salpêtrière un service de photographie exclusivement dédié. C'est quand même pas rien, c'est pas qu'on fait venir des photographes de l'extérieur pour prendre des photos documentaires ou esthétiques. il y a l'instauration dans le service même d'un service de photographie qui est chapeauté par des médecins et dans lequel on va faire en sorte de photographier quasiment toutes les patientes, y compris dans des crises d'hystérie, ce qui pose quand même certains types de problèmes, comme l'avait souligné par exemple Didier Huberman dans son livre sur le sujet. C'est qu'à l'époque, pour prendre une photographie, il faut rester immobile pendant un certain nombre de secondes, voire même de minutes, et qu'on voit là des femmes qui sont photographiées de manière très nette dans des poses complètement improbables, par exemple en arc de cercle dit hystérique, c'est-à-dire quand une femme ou un homme est complètement renversé en arrière, en arc de cercle, tête et pieds au sol et avec le ventre et les hanches en hauteur, bon, ce type de position. Et ces photographies vont beaucoup circuler, elles sont publiées dans l'iconographie photographique de la Salpêtrière tous les ans. Donc c'est un journal qui au départ laisse plus de place au texte et puis petit à petit qui cède de plus en plus d'espace aux photographies documentaires qui sont très belles, très spectaculaires. Et déjà là, il y a une esthétisation de l'hystérie. C'est déjà quelque chose qui tend vers la monstration artistique de quelque chose qui est de l'ordre du désordre mental.
Alors de par la représentation visuelle et la photographie, mais aussi de par la littérature dès le 19e siècle. Pourquoi ? Parce que ces lieux de folie représentent bien une sorte d'interstice entre la société autour, ses valeurs, la religion aussi très présente. Diable, l'idée d'une possession.
La maladie mentale, c'est un mot compliqué. En l'occurrence, là, l'hystérie, on peut peut-être dire de manière plus large que la folie, ça c'est vraiment un mot que je préfère, la folie c'est effectivement le lieu aussi d'une contestation ou d'une remise en question ou en tout cas d'une manière de se situer dans la réalité et dans le réel qui n'est pas compatible avec un certain fonctionnement social, qui le remet en question d'office. Et ça va intéresser évidemment très tôt les écrivains, les artistes.
Victoria Mas, comment est-ce que vous avez imaginé justement le roman historique, à savoir son contexte, la langue aussi de cette fin du 19e siècle, alors la langue médicale, la langue du personnel, mais aussi la langue socialement connotée que l'on aperçoit à travers vos regards, puisque les narrateurs changent de point de vue,
oui.
C'est pas un seul regard.
Oui. Pour moi, ce qui était vraiment très important pour écrire ce livre, c'était de l'ancrer à partir du moment où c'est un hôpital qui existe, et je parle de faits réels, et je mets des personnages qui ont existé, tels que Charcot, Babinski, dedans.
Ou Augustine.
Elle apparaît, on en parle, mais elle n'est pas un personnage au sein du roman. Justement, je voulais pas prendre trop de liberté non plus avec les personnes qui avaient existé, mais je voulais... J'ai fait plusieurs mois de documentation, de recherche, de lecture aussi pour essayer vraiment de me remettre dans ce Paris d'époque, dans cet hôpital, essayer de comprendre quelle pouvait être l'atmosphère, quelle pouvait être le sentiment, les odeurs. Je voulais vraiment quelque chose de très précis et en même temps amener quelque chose de, encore une fois, que ça ne soit pas un essai, que ça ne soit pas quelque chose de trop documenté, mais amener du romanesque aussi et de la fiction.
Et la langue, comment est-ce que vous avez travaillé la langue ?
En lisant les auteurs du 19e.
Parce que là, effectivement, peut-être pouvez-vous nous expliquer la structure dramaturgique que l'on retrouve, enfin dramatique plutôt, c'est-à-dire d'un côté, il y a les points de vue qui s'alternent, oui, et une sorte de frontière poreuse, sans vouloir spoiler, entre le personnel et les patients.
Oui. Oui, c'était toute la question aussi, par exemple, du « vous » et du « tu », puisque le « tu » était très peu employé à l'époque, mais il y avait une certaine familiarité aussi, où le corps médical tutoyait les patientes, puisque de toute façon, il n'y avait pas vraiment de considération pour leur personne. Mais quant au dialogue aussi, c'était... je voulais être au plus près de ce que pouvait être la langue parlée dans le 19e, donc ça, je l'ai vraiment juste... j'ai essayé de la retrouver dans les romans de Maupassant, de Zola, de Victor Hugo.
Anoukap,
oui. Sur la langue parlée ou utilisée dans le cadre de ce département de Charcot, c'est intéressant de souligner aussi que l'iconographie photographique de la Salpêtrière, donc cette espèce d'énorme document là qui nous a donné toutes ces photographies qui sont parvenues jusqu'à nous et qui sont encore utilisées aujourd'hui pour montrer ce qu'il en était. Ces documents là répertorient, ça veut dire qu'il y a un médecin qui était là, le langage, le discours en fait de ces aliénées quand elles étaient en crise, ces dites aliénées quand elles
elles étaient dans ce qu'on appelait une crise. Parce que vraiment, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on cautionne ce type justement de langage. Et c'est vachement intéressant parce que quand on se plonge dans ce document, on a 2, 3, 5, parfois 10 pages de discours plus ou moins délirants, pas forcément délirants, mais parfois oui, qui sont notés à la virgule près, à l'onomatopée près, au point de suspension près, où on a comme on peut entendre comme ça, écouter, lire, se déverser le discours entier de quelqu'un qui s'est mis en retrait du social au moment où ça se parle.
Alors pourquoi ? Parce que c'est un objet de recherche central.
C'est
là où
objet,
se concentrent les recherches
aussi
principales.
Déjà, un objet de recherche centrale pour Charcot, et c'est très curieux parce qu'alors même qu'il est neurologue et qu'il va travailler à partir de l'hypnose, en fait, il a déjà pris en charge quelque chose de l'ordre d'un secrétariat de l'aliéné. Et cette attention portée au discours, qui est très très forte au XIXe siècle, il y aurait un discours de la folie, va être repris ensuite au XXe siècle, mais plutôt du côté des poètes et des écrivains.
Alors un discours qui d'ailleurs deviendrait une vraie langue, une langue que peuvent identifier à l'intérieur du roman de Victoria Mas les gens du personnel et même les patientes qui sont là depuis un certain temps et qui se rendraient compte à l'oreille de qui est fou et qui ne le serait pas.
Alors il y aurait cette idée, effectivement, que la folie se parlerait un langage particulier. Idée qui a été propagée dans les manuels de psychiatrie, dès 1870 à peu près, encore de nos jours d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un point intéressant pour Charcot, parce qu'en tant que neurologue, il cherche là à distinguer ce qu'il en est des troubles du langage qui effectivement auraient une origine neurologique, et ça, il y en a, des troubles du langage qui ne relèvent pas, si on peut dire, de la folie, qui relèvent d'une maladie du cerveau, et puis d'autres troubles du langage qui relèveraient, eux, réellement d'une difficulté à se situer dans l'espace social qu'on appellerait la folie.
De même que le langage ne relève pas vraiment du langage. On va écouter Elisabeth Rodinesco qui parle de Sigmund Freud. C'était dans la grande traversée de Christine Le Serre sur France Culture le 31 juin 2018.
Toute l'Europe vient écouter Charcot. Il y a un nombre considérable de médecins qui viennent regarder les démonstrations de Charcot. C'est un homme absolument extraordinaire d'allure. Le public assistait aux démonstrations de Charcot, on le voit dans le tableau de Brouillet et on le voit dans la correspondance de Freud, tout le monde était habillé en costume noir avec des chemises blanches, ils étaient tous avec des barbes, enfin, c'était le monde médical. Les patientes, là, du coup, étaient des femmes et la différence avec ce que Freud avait vécu à Vienne, c'est que c'était l'hôpital populaire. Les femmes hystériques dont s'occupait Charcot, c'était des femmes du peuple. Et Charcot commence à se poser des tas de questions, ça a commencé sous la Commune, il se pose des tas de questions sur la différence entre les maladies neurologiques. Alors, Freud découpe des cerveaux, on va à la morgue, on essaye de comprendre ce que c'est que les maladies du cerveau. Les premiers travaux sur le cerveau commencent là. Et Charcot s'aperçoit, commence à comprendre qu'il y a des femmes qui n'ont aucun trouble neurologique et que, sous hypnose, en les endormant, on peut guérir les symptômes, on peut leur faire faire un certain nombre de choses. Elles ne se rappellent pas au réveil, mais en tout cas, on peut provoquer les symptômes en question par la suggestion hypnotique.
Elle nous capte dans cette question justement de recherche scientifique. Alors d'abord, voir si ça correspond à quelque chose de particulier du cerveau, puis cette zone que l'on tente d'identifier qui apparaît dans les travaux de Freud. On peut faire un parallèle avec le travail artistique et cette zone de création un peu méconnue. Ça pourrait expliquer aussi toutes ces représentations de la folie à une époque où on la connaît finalement peu scientifiquement.
Alors, cette comparaison, elle a effectivement été faite à peu près de manière contemporaine, un petit peu avant même, dès les années 1880 à peu près, par toute une série d'aliénistes, et notamment l'un d'eux qu'on connaît peu aujourd'hui, qui s'appelle Lombroso, et qui avait cette idée que la folie et le génie artistique, entendait-il, enfin il entendait le génie de manière générale, ça pouvait être le génie militaire, le génie scientifique, mais aussi le génie artistique, étaient les deux faces d'une même médaille humaine, c'est-à-dire que il y aurait quelque chose dans l'être humain qui dégénérerait, on est en plein dans cette théorie de la dégénérescence qui portait l'histoire de la psychiatrie à l'époque, et qui portait la psychiatrie à l'époque dans son essor, et donc la folie, c'était une manifestation comme une autre de cette dégénérescence, au même titre que le génie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, des liens ont commencé à se tisser sur le plan théorique entre la création et la maladie mentale.
Et vice-versa. Et la création aurait peut-être des vertus de sublimation d'une forme de folie latente.
Alors ça, c'est venu un petit peu plus tard. C'est venu plutôt au début du XXe siècle, quand certains psychiatres ont effectivement pensé qu'on pouvait se servir peut-être de l'art pour guérir ou soigner des patients.
Victoria Mas, vous dans ce travail justement d'écriture, vous tracez ces frontières un peu fragiles et vous montrez quand même toute une histoire qui est une histoire de genre, c'est-à-dire que ces patienteux sont ici aussi parce qu'il y a cette violence masculine qui est partout, qui est une violence économique, qui est une violence physique, qui est une violence sur les esprits des femmes, et cette contrainte de l'asile n'est qu'un reflet de la contrainte globale qui s'exerce sur les femmes.
Tout à fait. C'est ce qui est très parlant dans toutes ces femmes qui sont internées à la Salpêtrière, c'est qu'elles le sont en grande majorité par soit leurs époux, soit leurs pères. Donc c'est vraiment les hommes, du moins de façon générale, qui décident en fait du destin de leurs épouses ou de leurs filles. L'identité de la femme du 19e, de toute façon, ne se résume qu'à celle de son mari. Elles n'ont pratiquement aucun droit. Le personnage de génie qui vient d'une famille en effet bourgeoise, si en effet elle ne fait pas partie de la catégorie sociale générale qui est internée à la Salpêtrière, où on retrouve plus des femmes d'un milieu pauvre ou populaire, elle est malgré tout internée puisque elle pratique le spiritisme. Donc voilà, ça suffit à la faire mettre entre ces quatre murs. Donc c'est intéressant cette question des frontières, puisque à l'origine, par exemple, de la construction de l'hôpital, c'était la Salpêtrière à la base devait répondre au problème de mendicité. Donc c'était une prison. Et puis après, c'est devenu une sorte d'asile. Et puis après, c'est devenu un hôpital. Mais voilà, les frontières entre ces trois éléments restent floues. La frontière de la folie, de ce que c'est vraiment, quelles sont les causes de ces crises d'hystérie, on a pu en parler, voilà, sont aussi floues. Et c'était intéressant de pouvoir le mettre en parallèle avec aujourd'hui aussi, l'identité de la femme au 19e, voilà, se résumait à celle de son mari. Est-ce que l'identité de la femme aujourd'hui, la femme contemporaine, en dépit de tous les droits qui ont pu évidemment être acquis depuis ce temps-là, elle est quand même encore aujourd'hui, je pense, influencée par son statut marital et son statut de mère. À savoir,
c'est même la cause, hein, vous le dites dans le roman, vous le faites dire à l'un des personnages, le personnage de Thérèse. En réalité, toutes ces femmes sont devenues folles parce qu'elles ont été marquées, traumatisées dans leur corps ou empêchées par les hommes. Donc c'est les hommes qui seraient à la source de toutes les folies autour.
Oui.
En tout cas, c'est la thèse de l'un des personnages.
C'est la thèse de l'un des personnages. C'est-à-dire que sans... après, elle prend cet argument un peu extrême. Mais oui, en effet, sans les hommes, le monde irait mieux. Mais c'est... Oui.
C'est la question aussi de la sexualité que l'on retrouve dans les lieux, dans l'exhibition aussi de ces aliénés du 19e siècle, dans ces grandes séances d'hypnose publique. Il y a une dimension de spectacle qui s'adresse justement à un public assez masculin, pas uniquement, et qui exhibe en particulier des jeunes femmes.
Ah, ça fait plus qu'exhiber des jeunes femmes, ça fait exhiber une sorte de parodie du rapport sexuel. C'est-à-dire que les femmes, d'ailleurs c'est une des phases qui est isolée par Charcot, c'est la phase de l'extase. Et par extase, il faut entendre vraiment jouissance, il faut entendre orgasme. Donc tous ces gens se déplacent pour voir une femme qui est en train de vivre un orgasme à elle toute seule au sol.
Oui, donc
il y a une exhibition de la sexualité qui est complètement... refoulé de l'espace social.
Et couvert par la démonstration scientifique.
Couvert par l'alibi médical.
On va écouter un petit extrait lu par vos soins, Victoria Mas, du Bal des Folles.
Oui. Génie se souvient de ce fait divers qui remonte à une trentaine d'années. Une prénommée Ernestine aspirait à s'émanciper de son rôle d'épouse en prenant des cours de cuisine auprès de son cousin, chef cuisinier, espérant elle-même, un jour, être derrière les fourneaux d'une brasserie. Son mari,
ébranlé dans son rôle dominant, l'avait fait interner à la Salpêtrière. Nombre d'histoires depuis le début du siècle font écho à celle-ci et se racontent dans les cafés parisiens ou les rubriques faits divers des journaux. Une femme, s'emportant contre les infidélités de son mari, internée au même titre qu'une va-nu-pied, exposant son pubis aux passants. Une quarantenaire s'affichant au bras d'un jeune homme de 20 ans, son cadet, internée pour débauche, en même temps qu'une jeune veuve, internée par sa belle-mère, car trop mélancolique depuis la mort de son époux. Un dépotoir, pour toutes celles nuisant à l'ordre public. Un asile, pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes. Une prison, pour toutes celles coupables d'avoir une opinion. Depuis l'arrivée de Charcot il y a 20 ans, il se dit que l'hôpital de la Salpêtrière a changé, que seuls les véritables hystériques y sont internés. Malgré ces allégations, le doute subsiste. 20 ans n'est rien pour changer des mentalités ancrées dans une société dominée par les pères et les époux. Aucune femme n'a jamais la totale certitude que ses propos, son individualité, ses aspirations ne la conduiront pas entre ces murs redoutés du 13e arrondissement.
Alors peut-être, merci beaucoup d'avoir lu Victoria Mas un extrait. Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les questions légales aussi qui entourent cet enfermement. Vous avez dit ce sont les pères ou les maris ou les frères qui enferment leur sœur ou leur épouse ou leur femme. Comment ça se passait légalement? Est-ce qu'effectivement ils étaient les seuls à pouvoir donner leur avis? Et qu'est-ce qui pouvait générer une sortie? Puisque c'est le gros enjeu du livre aussi.
Tout à fait. Alors il n'y avait pas que les hommes aussi, ça pouvait, comme j'en parle là dans cet extrait, ça pouvait être une belle-mère, une tante, mais les hommes principalement amenaient les femmes ou faisaient appel aussi. Souvent la police se déplaçait pour venir chercher les femmes, soit à domicile, soit dans la rue, pour venir les interner à la Salpêtrière. Tout simplement à partir du moment où il y avait une signature de quelqu'un qui demandait à ce que la femme soit internée, ça suffisait et c'est après cette personne-là qui permettait de faire en sorte que cette femme ressorte ou pas. Il y a des femmes qui sont ressorties de la Salpêtrière, notamment, j'en parle dans le livre, Jane Avril, hein, qui est devenue la danseuse de cabaret qu'on connaît, qui a passé 2 ans à la Salpêtrière lors de son adolescence. Elle en est sortie après avoir été soignée, puisqu'elle avait tenté de se suicider. Et elle avait été rattrapée de justesse, elle voulait se jeter d'un pont, elle avait été rattrapée de justesse par des prostituées. Elle garde un souvenir très, très positif aussi de la Salpêtrière. Je voulais pas du tout écrire un livre où ça soit les femmes contre les hommes et les internés contre les médecins. Je voulais pas que ça soit ce manichéen-là. Il y avait beaucoup plus de souplesse et de fluidité à apporter aussi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire au mieux.
Et en même temps, à nos caps, on voit que cette question de la dénonciation du lieu d'enfermement, elle vient aussi du fait qu'on a le sentiment de règles extrêmement subjectives hein, dans le diagnostic, la durée des séjours.
Alors, il faudrait consulter d'un peu plus près les livres d'admission de l'époque, mais par définition, dès qu'il s'agit d'hystérie ou de troubles mentaux, évidemment que les diagnostics sont fluctuants selon les époques et selon même les individualités, selon les médecins.
De quelle longueur étaient les séjours d'époque? On parle de 2 ans. On parle aussi, alors là, il y a les patientes dans la fiction, les aliénés restent plusieurs années. Est-ce qu'il y avait un risque d'être enfermé, par exemple, à vie?
Il était tout à fait possible d'être enfermé à vie, mais il était aussi possible de sortir après 2 mois. Faut bien voir aussi que la psychiatrie de cette époque, qui s'appelle encore aliénisme, essaye de faire valoir qu'elle est une médecine comme une autre et qu'elle fonctionne aussi bien qu'une autre et que donc elle a vocation à guérir les gens. Donc de temps en temps, faut bien quand même faire sortir certains patients histoire de prouver que ce qu'on fabrique, c'est aussi de la guérison. Oui, il y a des risques d'être interné pendant toute sa vie. Il y a aussi la possibilité de sortir bien plus tôt que prévu parce qu'il est possible de montrer que le comportement d'une femme hospitalisée s'est amélioré, par exemple.
Alors on va revenir sur cet événement particulier de la Salpêtrière, le bal des folles. Ça, c'est un article du Petit Parisien du 19 mars 1887.
Chaque année, à l'hospice de la Salpêtrière, un bal est organisé le jour de la mi-carême, pour la plus grande joie des pauvres folles, pensionnaires de cet établissement. C'est dans une grande salle de l'hospice que ce bal a lieu. Des deux côtés de la salle, le long des fenêtres, sont des banquettes où s'entassent les invités. Tous, bien entendu, en costume de ville. À l'extrémité, il y a un buffet où, très avenantes sous leurs petits bonnets de tulle blanc, les infirmières affairées distribuent aux danseuses les verres de sirop et les petits gâteaux. Au milieu, on voit le fourmillement multicolore des quadrilles et des valses. Tout un peuple dansant de colombines, de magiciennes, d'espagnoles, de princesses et de laitières. Et tout ce monde joyeux, le rose aux joues et l'éclair du plaisir dans les yeux. C'est la folie pourtant, qui le croirait? À vrai dire, il n'y a pas là que des folles. Le service des maladies nerveuses, les hystériques, les épileptiques et les hypnotiques fournissent aussi leur contingent à la fête. On penserait, n'est-ce pas, qu'un bal organisé de la sorte doit être le déchaînement de la démence. Eh bien, il n'en est pas ainsi. Rien de plus paisible, de plus calme, de plus doux, rien qui soit d'un aspect plus débonnaire et plus rassérénant que ce bal des folles. Quand on se rappelle que dans ce même hospice de la Salpêtrière, où l'on dansait si joyeusement hier, les pauvres folles étaient encore, il n'y a pas 80 ans, enfermées à demi nues, le corps chargé de chaînes et de carcans, dans des loges souterraines, où elles avaient souvent les pieds rongés par les rats, ou gelés par le froid des hivers, on songe non sans fierté au chemin parcouru, et l'on se dit que ni la science, ni la philanthropie, ni le progrès ne sont de vains mots.
L'article était lu par Lou Le Joli. Victoria Mas, vous êtes peut-être tombée sur cet article-là, ou en tout cas d'autres de la même veine. On a le sentiment que le bal des folles, cet événement-là très étrange de la mi-carême, est une sorte d'apogée de ce jeu de masques, de ce jeu aussi social, de ces frontières poreuses.
Oui, on en revient à la frontière aussi, puisque en effet, c'était lors de ce bal, c'était à se demander qui étaient vraiment les fous, parce qu'en fait, les femmes internées se dansaient, mais se comportaient de façon, on va dire, normale, si je vais le mettre entre guillemets. Et ceux qui, au final, étaient beaucoup plus enthousiastes et, si je peux utiliser le mot, hystériques, parce qu'ils étaient en contact avec ces femmes dont ils entendaient parler tout le temps dans les journaux, dont ils venaient voir les démonstrations d'hypnose lors des cours publics de Charcot, c'était au final les Parisiens qui vivaient à l'extérieur. Donc c'était très intéressant pour moi d'avoir ce mélange des deux et de se poser la question qui sont vraiment les fous et qui regarde l'autre vraiment.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Anoukap, cet événement du bal des folles, avec cette idée d'une folie qui se transforme en une sorte de fête extrêmement étrange?
Eh bien, ça évoque le carnaval. Ça évoque la remise en question de tous les statuts, la possibilité d'exister dans un espace qui serait complètement hors norme, si ce n'est que, dans le cas de la Salpêtrière, on reste quand même dans les murs de l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose à quoi on ne peut finalement pas échapper.
Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui, Victoria Mas et Anoukap. Victoria Mas, je rappelle le nom de votre premier roman, il est chez Albin Michel et il s'intitule « Le bal des folles ».
On entendait Bon Hiver et la voix de Justin Vernon, qui
conclut son cycle sur les 4 saisons avec le tonal Aïe Aïe, composé de 13 chansons, dont celle-ci, Hey Ma. C'est le 4e et dernier album de Bon Iver. Il sortira le 30 août. Il est cependant déjà à l'écoute sur les plateformes de streaming musical. Il est 13h30 sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le réalisateur Aïra Sachs. Ça se passe à Sintra, sous un ciel de plomb, au pays des fontaines miraculeuses. Fontaine d'amour, fontaine qui guérit l'incurable. Ces vacances sont sûrement les dernières pour Françoise Crémon, actrice, premier rôle de la famille. Dans Frankie, Aïra Sachs propose à son personnage le cadre de sa caméra comme espace de transmission, un legs fait à la famille et au cinéma. Aïra Sachs est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table d'été. Il est traduit par les soins de Xavier Combes. Bonjour Aïra Sachs.
Bonjour.
Vous êtes venu nous présenter Frankie qui sort en salle le 28 août prochain avec un casting extrêmement international. Alors nous, évidemment, notre regard s'arrête quelques secondes sur Isabelle Huppert et Pascal Grégory.
Sure. About 10 years ago, I saw a film.
Il y a environ 10 ans, j'ai vu un film de Sacha Vitré qui s'appelait Kachagunda, film qui traite d'une famille en vacances dans l'Himalaya. J'ai été frappé par la structure du film et l'impact tout simple qu'il a eu sur moi, public. Donc, pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film sur une famille en vacances. Il y avait peu de chances que je puisse caster Isabelle ou Pascal. Dehors de leur propre vie. Je n'allais pas m'aventurer à faire un film sur la France ou en France, mais je voulais traiter de personnages qui cherchent une autre voie. Ça se connaît. J'ai travaillé avec des acteurs et actrices connus dans différents pays et je m'intéresse à leur vie en dehors des plateaux. Isabelle Huppert et moi, nous parlons depuis plusieurs années de ce projet. Et lorsque la discussion a commencé, j'ai dit que ce serait ça, le film.
Alors, un film en français et en anglais, construit autour de ce bilinguisme-là, autour aussi de cette double culture, puisque ce ne sont pas n'importe quels acteurs que vous avez choisis. Ce sont des acteurs qu'on retrouve dans des films de Chéreau, dans des films de Romère, Aïra Sachs.
Quand
je fais le casting, j'essaye de faire en sorte que le personnage se rapproche autant de la personne que je rencontre que possible. Évidemment, Isabelle Huppert a un énorme patrimoine, une énorme expérience derrière elle. Mais lorsque je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte qu'il y avait certains aspects d'elle que je ne connaissais pas. Je me suis dit qu'elle était très attachée la question de la famille, à l'art, et elle avait une forme de curiosité qui ne m'était pas inconnue. Mais en même temps, dans le film, elle a un côté d'étrangeté, mais je voulais l'amener à un point où elle pourrait révéler quelque chose de nouveau en elle. Quand on tourne avec Isabelle, à certains moments, on voit son visage dans un autre film. À un moment donné, elle est dans une scène avec Marissa Tomei et il s'agit de deux amis très proches. Et dans le film, je n'ai pas cessé de penser à « Entre nous ». Ça m'arrivait dans l'esprit comme un cousin, comme si je lui parlais au passé alors que je tournais au présent avec elle.
Donc tourner avec elle, ça veut dire que c'est aussi tourner avec Isabelle Huppert en tant qu'icône et de mémoire du cinéma. Du cinéma français, d'un certain cinéma français, Aïra Sachs.
An icon, yes, but a woman first.
Icône, oui, mais femme avant tout. Quand on travaille sur un film, on ne pense qu'au film quand on est réalisateur, c'est tout. On ne s'intéresse pas au passé, on ne s'intéresse guère à l'avenir, on ne s'intéresse pratiquement qu'au présent, à l'instant qui vous est donné pour essayer de saisir la réalité. Donc moi, en tant que réalisateur, je dois créer une ambiance dans laquelle Isabelle, par le truchement du personnage, peut amener Isabelle Huppert à l'écran. Donc, je lui ai donné quelques instructions, elle écoutait, et son instinct naturel est tellement extraordinaire qu'il créer une réalité extraordinaire.
Oui, c'est ça que vous nous dites qu'on s'intéresse qu'au présent, et dans votre film, il s'agit du passé, de l'héritage, du futur.
J'ai fait un film qui s'appelait Married Life, et quand je travaille sur un film, notamment celui-là, je me projetais dans des images en noir et blanc, mais en couleur, vous voyez, d'une façon générale.
Donc,
Piala, Van Gogh. Et pour moi, dans ce film, cette période disparaît et c'est le présent qui devient palpable. Et en tant que réalisateur, c'est cela qu'on essaye de faire. Évidemment, le casting est très important. On rassemble des gens et les comédiens et comédiennes n'ont pas besoin de penser à ce qui pourrait être. Mais là, en fait, nous sommes en train de faire une interview dans une situation un petit peu compliquée avec un interprète. Nous, on ne se connaît pas, et sur mon visage, vous voyez tout ce qui se passe. Et pourtant, nous sommes à la radio, et donc je ne peux pas faire semblant. Nous sommes véritablement plongés dans le présent. C'est ça qu'on essaye de capturer au cinéma. C'est ainsi que je travaille, moi, comme réalisateur, le cinéma du moment, le cinéma de l'instant présent.
Ah, et Sex, on va se reconnecter quelques secondes avec le présent. Le présent, c'est la sortie de ce film Frankie, dont il faudrait peut-être nous dire quelques mots. Est-ce que on va peut-être en écouter un extrait, et après vous allez nous expliquer ce qui s'y passe.
I don't want to go into all the details, but the cancer has spread. It's everywhere. They don't think I'll see the new year.
Oh, Frankie.
The difficult part for me is seeing people cry, so please, don't cry. I wanted you to come here because I want you to meet my family. I want us to have a good time, which for me now means just time together.
I'm going to miss you. Terribly.
I know you will.
RSX, racontez-nous ce que l'on entend. On est un peu déstabilisé d'entendre Isabelle Huppert s'exprimer en anglais. Elle est le personnage de Frankie, le personnage central du film.
Le film lui-même traite d'une famille en vacances à Sintra, petite ville du Portugal. Ils se rassemblent parce qu'il y a une crise de famille. Et en fait, cette crise est dévoilée dans la scène qu'on vient d'entendre. Isabelle, et son personnage Frankie, arrive vers la fin de sa vie et elle est confrontée à une maladie dont elle ne, à laquelle elle ne survivra pas. La famille, 9 membres, se rassemble. Chacun a une histoire et tout arrive dans l'instant présent. En l'occurrence, le personnage d'Eileen est une coiffeuse qui a travaillé avec Frankie dans un tournage à New York il y a quelques années auparavant. Elles sont meilleures amies. Elle arrive des États-Unis en tant qu'instigatrice de l'histoire. En fait, l'histoire du film est un petit peu différente de ce que je viens de vous dire. L'histoire, c'est une comédie de mariage, si vous voulez, à propos de sujets fort tragiques. Il y a plusieurs relations en jeu et la question est de savoir comment tout cela arrivera à un point culminant, comment est-ce que la femme épousera l'homme qu'il faut ou non. Il y a des couples qui existent depuis 2-3 ans. Est-ce que ça va perdurer? Oui, non. Donc il y a tous ces ressorts dramatiques, tout ça de façon très condensée dans le film, notamment dans cette scène.
Alors c'est un système qui se construit avec des jeux très importants d'écho, puisque finalement, la question de l'amour, elle est traitée à tous les âges de la vie. Il y a le premier baiser, il y a ceux qui ont envie de divorcer, il y a ceux qui risquent de mourir. À Erasac, il y a une sorte de confrontation des âges.
You know, in the last 5 years, I'm in my mid 50s. In the last 5 years,
moi j'ai environ 55 ans. Et il y a au cours des dernières années, j'ai été plus proche de la mort et de la maladie que jamais. J'ai perdu une très bonne amie qui a décédé du cancer du sein. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai 103 ans. Ce qui m'a frappé dans ces moments intimes, c'est la différence entre la réalité et ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à la tragédie, à la tristesse. On ne se rend pas compte que on apporte son propre vécu à ces moments. Peut-être que, d'un point de vue tragique, on vient voir quelqu'un sur son lit de mort et au fond de votre esprit, vous êtes en train de penser à votre courriel que vous n'avez pas envoyé ou alors votre vie amoureuse. Vous voyez, votre présent est projeté dans ce moment pourtant tragique entre le profond et le superficiel, la mort, la vie. Alors, tout cela, on le retrouve dans la performance de comédienne d'Isabelle Huppert, parce que c'est une comédienne formidable et on retrouve tout ça chez elle.
Et Ressac, il y a quelque chose du roman littéraire, du roman de famille dans ce film, un film extrêmement dialogué, un film qui traverse les générations.
You know, for me, the novel is where it all begins.
Je commence par le roman à mes yeux. En tant qu'artiste, en tant que réalisateur, j'ai découvert le cinéma. Je devais avoir quoi, à peine 20 ans, à Paris d'ailleurs. Je pensais rester 3 mois, c'était en 86, et j'ai vu 197 films pendant mon séjour en France, donc le cinéma, ça fait partie de mon imaginaire. Mais à mes yeux, les réalisateurs se nourrissent des romans, d'Henry James, de Proust. La liste est très longue, évidemment, mais ce qu'il y a de formidable chez tous ces romanciers, c'est qu'ils définissent leur moment avec une telle précision, comme si c'était notre moment. Par ailleurs, les bons romanciers ne s'éloignent pas, n'ont pas peur de parler de l'intime, de la vie domestique, de la vie intime des couples et des familles.
À Erasac, quand vous parlez du cinéma français et de votre séjour en 1986, on se dit que vous avez dû voir bien des Romères pour aussi avoir eu le désir de faire jouer notamment Pascal Grégory, acteur qui jouait dans Pauline à la plage.
Yes, you know, Romer's films have always been important to me.
Le cinéma de Romer a toujours joué un rôle important chez moi. Mais les choses sont différentes pour ce film aussi. Quand j'ai décidé de faire un film sur des gens en vacances, avec beaucoup de dialogues, là, je me suis beaucoup intéressé à Romer. Parce que, en fait, Romer avait une stratégie visuelle sur la façon dont il fallait tourner à la fois le contenu, mais aussi le lieu, les personnages dans des espaces extraordinaires, mais les personnages ne sont pas conscients de l'espace, du lieu. Les personnages s'intéressent au dialogue, à ce qu'ils se disent les uns aux autres, comme si l'espace disparaissait chez Romer. Mais Romer y parvient grâce à un style de tournage. Et Luis Posas, mon chef portugais, et moi, nous avons étudié cette technique de Romer de très près pour bien comprendre comment il y parvenait. Et ce qui en ressort, c'est une sorte de dramaturgie théâtrale. Autrement dit, il y a très peu de montage. On voit les acteurs évoluer, se mouvoir dans l'espace. On les voit en tant que personnages, mais aussi en tant que comédiens en train de travailler. Et je crois qu'il faut en parler après avoir vu le film, évidemment.
Alors, on va juste écouter Eric Romer.
Il y a place au cinéma pour une certaine façon de raconter des choses et pour certaines actions qui n'ont pas été montrées jusqu'ici. En particulier, on n'a jamais osé au cinéma montrer des personnes qui avaient une véritable conversation. On a peur, effectivement, que la parole l'emporte sur l'image. Il faut chercher dans cette voie, c'est un domaine nouveau qu'on peut explorer. Quelle action, en fin de compte? Qu'est-ce que c'est que l'action au cinéma? L'action se réduit à un nombre de gestes extrêmement limités, surtout dans la vie moderne. Si on raconte une histoire dans laquelle on ne veut pas qu'il y ait de bagarres, ni de poursuites, ni de morts, ni de crimes, etc., et dans ce cas-là, que montrera-t-on? On montrera des choses extrêmement monotones. Si l'on veut être vrai, en fin de compte, il faut accorder une grande importance à la parole. Et le cinéma vérité accorde une très grande importance à la parole.
Rassac, c'est cette question finalement dans laquelle s'inscrit aussi votre film, hein, la part entre la parole et l'environnement. Et l'environnement qui, même s'il n'est pas le centre d'intérêt des personnages, finalement les réunit, les enveloppe et devient le langage visuel aussi du décor.
You know, I take pleasure in disagreeing with Piala.
Moi, je ne suis pas d'accord avec Piala.
Mais
l'élément qui manque, c'est le visage.
So much happens, and certainly when I think of Piala, I think about Sandrine Bonnaire's face.
Je pense au visage de Sandrine Bonnaire.
I think of Isabelle Huppert's face.
Je pense au visage d'Isabelle Huppert dans Loulou.
And I think that is really what the camera can do differently than the novel.
La différence entre le cinéma
et
le roman.
So a lot of what I'm interested in is the space where people aren't talking.
Moi, j'aime bien les espaces où les personnes ne dialoguent pas. J'aime bien les moments de silence.
More successful scenes in the film.
Et les scènes les plus réussies, c'est entre Brenda Gleeson et Isabelle Huppert. Oui, ces espaces, notamment dans une chambre, il n'y a pas de dialogue, mais c'est la présence des comédiennes, l'aspect physique des choses qui rend le sens de tout le film en une seule scène, en un regard. Donc, quand je travaille avec des comédiens, je leur demande de ne pas préparer, mais d'écouter, d'être présent, de réagir et de laisser la pensée s'exprimer par leur visage.
Alors, il y a le corps des comédiens comme espace, mais il y a aussi cette nature que l'on retrouve en particulier dans ce film, qui n'est pas un film en milieu urbain, comme l'ont été Brooklyn Village, par exemple, Ira Sachs. Et on retrouve la forêt, l'océan, à quelques kilomètres.
Yes, I mean, I think nature plays an important role for many reasons, visually.
La nature joue un rôle important d'un point de vue visuel, mais thématique aussi, car le film porte sur la temporalité, il porte sur la brièveté de notre souffle et de notre vie, et il va nous rester la nature. Et aujourd'hui, du reste, la question se pose sur la survie de la nature. Moi, je me suis toujours dit que quand je mourrai, New York City ne changera pas d'un iota. Rien ne changera à New York entre le moment où de mon dernier souffle et ma mort. Aucun feu rouge ne s'arrêtera. Rien ne changera. Alors c'est déprimant, mais c'est aussi assez exaltant parce que on peut rendre ce moment important ou non. On peut choisir de faire ce que l'on veut. Le fait d'être présent, d'être connecté au monde et à la réalité, c'est pas forcément obligatoire.
Alors visuellement, on voit arriver des pluies diluviennes, cette idée de la fontaine, de l'eau, et d'une nature qui finalement pourrait quelque part apporter des miracles. Il y a une dimension presque religieuse de la nature dans ce film, Ira Sachs, et ça c'est un peu nouveau.
Yes, and I think for me it's somewhat theatrical, meaning I'm drawing attention to those tropes
théâtral.
Of nature's power, miraculous powers, without actually having,
while remaining atheistic, remaining a non-believer.
What I do believe in
is
the things that are
non-croyant,
that can't be spoken.
Mais il y a des choses que l'on ne peut pas exprimer. Et lorsque on tourne à Sintra, lieu que je ne connaissais pas, j'ai passé pas mal de temps à Sintra au cours de la dernière année, j'ai commencé commencé à ressentir une familiarité, une intimité avec sa beauté qui n'est pas sans me rappeler la façon dont je peux tourner à New York, par exemple. Je savais ce que j'aimais à Sintra. Et ça, j'essaye de l'apporter au film. Il y a un certain nombre de choses qui ont évoqué des émotions en moi, et ça, c'est nécessaire. Donc, je ne connais le Portugal que très mal. Je n'ai pas fait un film sur le Portugal, mais je crois avoir fait un film sur Sintra et sur la façon dont cette ville m'a fait avoir un bon ressentiment, un bon sentiment.
Et à ça, dans les thématiques qui restent, parce qu'il en faut aussi, il y a des questions liées à l'argent. Le rôle que joue l'argent dans l'amour, ce que l'on transmet, ce que l'on lègue, ce que l'on offre aussi. Cette idée de l'argent, elle était déjà très présente dans votre film Brooklyn Village, où l'argent était aussi synonyme des modifications, des transformations du visage de la ville de New York qui se gentrifiait.
This is something else I've learned from Henry James.
Une autre chose que j'ai apprise de Henry James et de Wharton, deux grands écrivains de New York, c'est que l'on ne peut pas distinguer le personnage de l'argent. Chacun se définit par de nombreuses façons, mais personne ne peut être perçu sans que soit perçue la relation à l'argent. Et c'est vrai dans ce film aussi. Les questions que se posent les personnages sont des questions d'amour, à n'en pas douter. C'est un film dans lequel tous les personnages, y compris une jeune adolescente, sont à la recherche de l'amour et de l'intimité de la relation. Et cependant, chaque personnage aborde l'amour dans le domaine des possibilités économiques, voyez, financières. Donc, à mes yeux, cela fait partie de la façon dont je perçois l'histoire et l'importance des personnages. Mais c'est intéressant de faire un film dans lequel les personnages ont de l'argent, chose que je n'avais pas faite précédemment, parce que j'ai remarqué qu'il y a une tension que cela génère, parce que ces personnages ont des possibilités que tout le monde n'a pas. Il y a une séquence sur un bracelet qui vaut beaucoup d'argent. Et c'est un petit peu comme un film d'horreur pour plusieurs spectateurs, parce que les personnages ne considèrent pas l'argent de façon aussi sérieuse que d'autres personnes. Donc c'est intéressant de voir comment le film provoque quelques sentiments, quelques émotions, quelques réaction autour de l'argent.
Je faisais des parallèles avec Brooklyn Village. On va écouter un petit extrait de Brooklyn Village, votre film précédent.
How long have you been doing this exercise?
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 I'm not playing with you.
I'm not playing with you.
You know, you make me make mistakes in my own exercise.
You know, you make me make mistakes in my own exercise.
You make me make mistakes in my own exercise.
You make me make mistakes in my own exercise.
I make you make mistakes in your own exercise.
I make you make mistakes in your own exercise.
I make you make mistakes in your own exercise.
I make you make mistakes in your own exercise.
I make this exercise the way I like it.
I make the exercise the way I like it.
I make the exercise the way I like it.
I make the exercise the way I like it.
I like the exercise.
I like the exercise.
I love the exercise.
I love this 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 exercise.
I don't want to do any other exercise.
I don't want to do any other exercise.
I don't want to do another exercise.
I don't want to do another exercise.
I never want to do another exercise.
À RSX, on arrive en pleine séance d'exercice de théâtre. Le personnage de Tony crie sur son professeur à sa demande. Il répond à la demande qu'on lui fait. La question qui était abordée dans Brooklyn Village, c'était aussi une question économique liée à la gentrification de Brooklyn et aux impossibilités d'y accéder finalement pour une certaine classe sociale qui se retrouve rejetée de Brooklyn. Est-ce que finalement cette question des contraintes économiques dans un contexte de libération des mœurs, finalement l'argent devient le contrôleur social?
L'argent est un agent de contrôle social, mais aussi de contrôle émotionnel au cinéma. Les choix que nous opérons sont souvent définis par ce qui nous est possible. Je vais bientôt faire une interview à New York sur Chantal Akerman, notamment sur le film Je tue, il, elle. Donc je regardais cela ce matin et je me disais que chez Chantal Akerman, d'un point de vue économique, il y avait pas mal de contraintes. Hein. Et ces films sont pourtant si larges, si vastes. Il y a du grandiose dans ces films. Et pourtant, moi je me dis que en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, ce qui me donne espoir, un petit peu comme ce garçon hein, pendant cet extrait, Michael Barbieri, quel acteur formidable, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Parfois, un film, une carrière, un artiste peut apporter quelque chose d'unique. Et ça, ça donne un pouvoir qui est distinct de celui de l'argent. Donc c'est quelque chose d'interne que l'on apporte. Pour moi, moi j'ai appris à connaître Isabelle Huppert, c'est une des grandes actrices de notre époque, hein, selon mon doute. Mais en même temps, c'est une personne formidable. Tout comme Chantal Ackerman. Donc elle m'inspire beaucoup, tout au même titre que Chantal Ackerman, parce que la façon dont elle aborde sa profession et ses passions.
She pushes me to be better.
Sont admirables et elles me poussent à faire toujours mieux.
C'est un bel hommage que vous lui rendez. Merci à Ira Sachs d'être venu aujourd'hui, d'avoir été parmi nous pour cette dernière grande table d'été. Merci à Xavier Combes pour votre traduction. Je rappelle que votre film Frankie sort en salle le 28 août prochain. C'était la dernière grande table de l'été. Des trombes de remerciements aux équipes d'été qui ont rendu cette grande table possible au mois de juillet et au mois d'août. Julien Rosa, Marianne Chasseur, Chouchane Gergaillan, Louque Vauvillier, Jeanne Copé, Pascaline Bonnet, nos formidables stagiaires Alexandra Brouillet et Lou Le Joli, et nos deux réalisatrices adorées, Marie Placé et Alexandra Longuet. Aujourd'hui à la technique, c'était Valentin Bobinet. Lundi, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gisbert avec une semaine également consacrée aux auteurs de la rentrée littéraire Laurent Binet, Kaoutar Adimi et Léonora Miano.